Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Là, on est sur le festival du Grand Bivouac à Albertville. Donc, pendant 3 jours, s'enchaînent des projections de films, des expositions, des carnets de voyage, tout un pôle littérature autour du voyage. Donc, toi, tu es voyageur. Je vais te laisser te présenter. Donc, je sais juste que tu t'appelles Olivier et que tu es là sur ce festival pour présenter 2 documentaires. Donc, si je veux te demander, Olivier, qui est Olivier ?
Olivier Higgins du Québec, donc, et en fait les films que je présente ici, c'est une co-réalisation avec ma copine et collaboratrice de toujours, Mélanie Carrier. Donc on a co-réalisé ces films-là, malheureusement Mel ne pouvait pas être ici avec moi. Et voyageur, je ne suis pas un voyageur, on est tous des voyageurs à notre façon, dans notre quotidien, puis... c'est ça, le voyage se définit de différentes façons, selon moi. Puis, les films que je présente ici, en fait, c'est un premier film qui a été fait en 2006. Donc, un grand périple à vélo de la Mongolie à l'Inde qu'on a fait, moi et Mélanie. Puis, c'est un premier film, en fait, que nous, on avait étudié en biologie. On se lançait, on n'était pas du tout dans le documentaire. Puis, finalement... on rêvait d'autre chose, de se dépasser, puis en même temps de voyage aussi, d'aventure. Puis, ça faisait déjà plusieurs années que je filmais, donc je voulais réaliser retirer quelque chose de différent, de plus de ce voyage-là.
Et cette aventure, cette expérience. On va en parler de ce film. Le deuxième, c'est Québécoisie, que tu diffuseras aussi sur le week-end. Mais avant de présenter les films, tu me parlais du voyage. Tu dis on est tous des voyageurs. Quelle est ta définition à toi du voyage? Qu'est-ce que c'est que voyager?
Voyager, c'est rencontrer. Mais ça peut être rencontrer, tu sais... ça peut être rencontré chez soi aussi. Donc, par exemple, Québécoisie est un voyage chez moi, au Québec. Et des fois, on réalise pas qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour voyager. Ici, par exemple, je parlais du chercheur que j'ai rencontré à Grenoble. Ben, j'aurais pu rencontrer un chercheur qui... à l'université près de chez moi, puis d'écouter un peu son récit à lui, sa vie, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Puis je voyage d'une certaine façon à travers différents univers, différents mondes que je connais pas, tu sais. Juste en écoutant quelqu'un parler de... Si je vais rencontrer un agriculteur qui me parle d'agriculture, puis je connais pas du tout l'agriculture, mais si je m'intéresse profondément à ce qu'il fait, ben d'une certaine façon, je voyage à travers lui, tu sais.
Donc pour toi, le voyage, c'est avant tout la rencontre qui va naître entre 2 personnes.
La rencontre et donc d'une part la rencontre et je pense que d'autre part il y a le peut-être le mouvement aussi d'être en mouvement, donc d'être en transformation d'une certaine façon.
Pour revenir un peu à toi, à ton itinéraire personnel, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à avoir envie de voyager, de prendre la route, hein, de faire ce périple à vélo, parle-moi un peu de toi, de qui es-tu, pourquoi tu en es venu là?
J'ai aucune idée, en fait. Depuis que je suis tout jeune, ça vient peut-être de plein de facteurs, les mystérieuses cités d'or que j'écoutais, autant que le fait que mon père aimait la voile, il m'a amené faire de la voile quand j'étais jeune. Donc, c'est plein de circonstances qui ont fait de fil en aiguille que je me suis intéressé à bouger puis à me déplacer à travers le monde. Puis, donc, ça a commencé par des voyages au Canada pour le travail durant les études. Et il faut comprendre que le Canada, quand je pars du Québec, que je traverse 5000 km pour aller de l'autre côté, ça reste un grand voyage, même si je reste dans mon propre pays, d'une certaine façon. Et je partais là pour travailler, planter des arbres durant mes vacances d'été, etc. Puis après ça, j'ai continué à voyager avec ma copine pour différentes raisons, pour le travail, les études, l'escalade, parce que je fais beaucoup d'escalade, donc c'était de découvrir différentes falaises à travers le monde. Donc je me suis promené pour différentes raisons. jusqu'à ce grand périple à vélo qui est azimut de la Mongolie à l'Inde.
Comment on le réfléchit, ce périple? Comment est-ce qu'on construit un projet comme ça? Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est un grand projet.
D'une certaine façon, le titre azimut a un lien directement avec cette origine-là. C'est que, bon, on finissait nos études en biologie, puis on était allé passer quelques entrevues pour travailler dans le domaine, etc. Puis on a réalisé que c'était pas vraiment ça qu'on souhaitait faire, ou on était un peu perdu. Puis on s'est dit, ben, pour se retrouver d'une certaine façon, ce qu'on souhaite faire vraiment en ce moment, qu'est-ce qu'on souhaite faire, c'est de voyager, puis de réaliser un film. Donc c'était notre azimut à nous, notre azimut. On a écrit pour le film A-S-I-E et muté, qui est un jeu de mots, mais dans le fond, on trouvait quelque part, on espérait peut-être d'une certaine façon trouver notre azimut à nous à travers ce périple-là.
Regarde ailleurs.
Gérard d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc Olivier Higgins, de loin... Alors bah tiens, je vais te laisser me le lire.
De loin, les deux petits points semblent glisser sur la piste caouteuse. De près, c'est chaleur et poussière. Et l'enfer jongle en permanence avec l'émerveillement. Pour leur première grande aventure, Mélanie et Olivier ont choisi 8000 km à vélo, de la Mongolie à Calcutta, à travers l'Asie centrale, avec leur force physique, mentale et sentimentale. Et un azimut, découvrir le monde, les autres et un peu de soi-même. Le grand récit de voyage de cette édition.
Waouh, donc voilà, là on a des chiffres qui sont posés, 8000 km en vélo, donc de l'Asie, de la Mongolie, passé par l'Asie centrale jusqu'à Calcutta. Pourquoi, comment avoir choisi cet itinéraire? Qu'est-ce qui a fait que tu choisis de partir de l'Asie? Comment est-ce qu'on le construit, ce parcours?
Ben, on avait déjà voyagé beaucoup, puis on souhaitait en fait découvrir un coin de pays qu'on n'avait jamais voyagé, donc ça c'est une première raison. Une autre raison, c'est qu'on voulait que l'aventure soit physique, difficile, donc d'où l'idée, on se doutait bien, puis on avait parlé à d'autres cyclistes qui voyagent à travers le monde, qui nous avaient dit que bon, ces régions-là allaient être difficiles à pratiquer en vélo. Donc on voulait que ce soit physique, et on souhaitait aussi, puisqu'il y avait un film impliqué, ben il y avait une question à quelque part de scénarisation, et on se disait, bon, on avait eu d'autres idées de traverser l'Himalaya à pied, etc., mais on voulait qu'il y ait une certaine diversité, un changement. Donc on passait de la Mongolie avec les peuples nomades, après ça, à la Chine qui, bon, depuis, on le sait, plusieurs années, vit des grands changements industriels et autres, politiques, etc. Après ça, au Népal, qui était pour nous, pas au Népal, au Tibet, qui était pour nous, dans le fond, c'était un peu mythique, c'est un endroit comme spirituel. Et on termine en Inde, où il y a tellement de monde, il y a tellement de gens, que c'est comme si l'Inde, tout est possible en Inde. Et là, il y avait un contraste entre la Mongolie, où on est vraiment seul, avec soi-même, et l'Inde, où là, c'est l'inverse, c'est l'aventure humaine, d'une certaine façon, où on se retrouve dans des milliers de gens à chaque jour. Donc c'est ça, ce parcours-là permettait beaucoup de choses au niveau scénario.
Mais ce parcours-là est possible, donc on peut partir de Mongolie en vélo, arriver par la Chine, passer par le Tibet, traverser l'Himalaya à vélo pour passer du côté indien, c'est quelque chose de réalisable, c'est possible.
Oui, en fait, nous, même il y avait supposément un nouvelle, parce qu'il y a une frontière au sud de Ulaanbaatar, qui est la capitale, une frontière qui passe, qui est connue, qui traverse en Chine, et c'était pratiquement la seule à l'époque, et pour les étrangers. Mais nous, on voulait sortir à l'ouest de la Mongolie. Et là, on s'était fait dire que cette nouvelle frontière-là était ouverte. On avait même demandé l'information à Ulaanbaatar et on nous avait répondu que oui, les étrangers pouvaient passer à cette frontière. Et curieusement, non, impossible. Donc, on a eu des surprises. Fait qu'il y a eu des différentes surprises.
Mais non, pas possible, t'en es rendu compte en arrivant là-bas, c'est ça? Donc t'as déjà pédalé pendant plusieurs centaines de kilomètres, et là t'arrives au poste de douane, on te dit, bah non, désolé, vous passerez pas.
Exactement. Donc faut voir le film pour voir la suite, mais c'est ça, tu sais, c'est un parcours... c'était quand même un parcours difficile, puis... Sinon, après ça, bon, le Tibet, c'est le Tibet qu'on connaît avec ses interdictions, qu'il faut aller en groupe, etc. Je sais plus aujourd'hui comment c'est exactement, mais à l'époque, bon, il y avait des sections où il fallait être accompagné d'un groupe de touristes, etc. Il fallait avoir un visa spécial. Donc nous, à vélo, c'était pratiquement impossible de rentrer au Tibet. Il fallait arriver à Lhasa en avion. Donc on était obligé d'un peu de tricher, si vous voulez, pour effectuer ce parcours-là.
Alors il y a le parcours qu'on peut suivre géographiquement sur une carte, qu'on va appeler le parcours extérieur, mais c'est aussi un voyage intérieur dans ce genre d'aventure. Tu te retrouves sur ton vélo à pédaler, on parle de Mongolie, dans des steppes, avec une sorte de vertige horizontal, du paysage à perte de vue. Et qu'est-ce qui se passe en soi quand on est en mouvement sur son vélo? À quoi on pense? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, au milieu de nulle part, à pédaler?
Ben, on pense à plein de choses, on pense à tout. Et je dirais même qu'on pense tellement qu'on ne pense plus à rien à un moment. Donc, c'est ça, ça fait drôle de dire ça, mais c'est vrai, d'une certaine façon, à un moment donné, on fait le vide, puis c'est une sorte, ça devient, je sais pas, une sorte de méditation. En tout cas, pour nous, c'est devenu, ce voyage-là, une sorte de méditation. Moi, je fais beaucoup d'escalade, puis c'est ma méditation, je dirais, au quotidien. Mais ce voyage-là permettait... De vraiment faire le vide et de se recentrer sur qu'est-ce qui était important pour nous. Et ces moments-là à vélo permettent... On a tellement de temps pour réfléchir que justement, on fait d'une certaine façon le vide à un moment donné.
Oh,
Et le couple, le fait de voyager en couple, c'est aussi mettre son couple à l'épreuve. C'est intéressant, ça, de vivre une aventure de cette manière-là, être non-stop dans des situations assez extrêmes.
Oui, mais c'est ça, moi et Mel, on se connaît depuis l'école secondaire, puis nous, la question s'est même pas posée, à savoir est-ce que ça allait mettre le couple pas en danger, mais si on allait vivre des épreuves difficiles, puis que ça allait, on allait s'engueuler, ou puis je dirais que ça a plutôt été l'inverse, que quand il y en avait un qui était faible, c'est l'autre qui prenait la relève, etc. Dans notre cas à nous, j'ai vu, durant les dernières années, j'ai vu beaucoup de films d'aventure, et oui, souvent on voit que ça peut mettre le couple à l'épreuve d'une certaine façon. Puis nous, non, ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. C'était plutôt tout allait de soi. Ça s'est très bien déroulé.
Quand on part à vélo sur des grandes distances comme celle-là, je repense encore une fois à la Mongolie, où finalement il y a très peu de villes sur l'itinéraire. Comment tu fais? Tu es complètement autonome? Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir te loger?
Oui, on a tout ce qu'il faut pour se loger. Mais puis pour se nourrir aussi, mais je dirais qu'il y a des régions comme la Mongolie où il y a des grandes distances qu'on parcourt où il n'y a rien du tout. Donc là, il faut faire des provisions pour plusieurs jours. C'est surtout l'eau qui est toujours le plus critique, là. Donc c'est d'apporter beaucoup d'eau, puis aussitôt qu'on peut trouver de l'eau, soit des fois si on voit une tente ou une yourte ou... c'est de se dire, on ne sait pas à quel moment je pourrais retrouver de l'eau. S'il y a une tente, ça veut dire qu'il y a de l'eau. S'il y a des gens qui habitent là, toujours il y a de l'eau. Donc c'est vraiment le point le plus important. Puis oui, on transporte nos choses avec nous.
Sur le vélo, quand vous voyagez de cette manière-là, tu as une remorque ou qu'est-ce que tu emmènes avec toi? C'est souvent la question que les gens aiment bien savoir, qu'est-ce qu'on prend et combien de kilos avec soi?
Tout dépend du trajet, mais je ne ferai pas l'élaboration de tout ce qu'on peut ou on ne peut pas amener. Mais tout dépendant du trajet, tout dépendant de est-ce que les gens veulent rester en tente ou manger. Est-ce qu'on apporte un réchaud, etc., etc. Donc, c'est très différent, même le vélo, en fait. Est-ce qu'on va rouler sur des routes pavées? Est-ce que la route va être chaotique? Est-ce que... Donc ça ne se répond pas en deux secondes. Mais c'est ça, il y a tellement de blogs ou de sites pour s'informer. Je pense que c'est important de bien prendre le temps de choisir en fonction de l'itinéraire.
La Mongolie, les grands espaces, la Chine, les plateaux du Tibet pour arriver en Inde, qui là, du coup, on ne se sent plus du tout tout seul.
On le voit d'une certaine façon à travers le film, justement. C'est à la fin, on dit que c'est comme l'aventure humaine tu t'arrêtes même en plein champ. On prenait des petites routes secondaires en Inde, puis on se disait, on va arrêter ici, on va être tranquille, on va m'en prendre un peu d'eau et manger une banane. Et là, on s'arrêtait sur le côté de la route. Là, il y a quelqu'un qui sortait du champ. Après ça, une autre personne. Et là, finalement... On se retrouve à... Il y a une voiture qui arrête, il y a un vélo qui arrête. Et là, après deux minutes, nous, on mange notre banane, mais il y a 25 personnes autour de nous en plein milieu de nulle part. Donc, ça a été... C'était difficile, je dirais, même psychologiquement, à tous les jours, d'être entouré par tant de gens.
Ça, c'est en Inde, ça. C'est pas sur le reste de l'itinéraire, c'est...
Comment?
Ça, c'était en Inde, pas forcément sur le reste de l'itinéraire.
Oui, ça, c'était en Inde, ouais. Ouais.
Les rencontres marquantes sur ce voyage, qu'est-ce qu'on peut voir dans le film, qu'est-ce que tu as envie de partager?
Il y en a tellement, mais c'était des certaines anecdotes sympathiques, c'est qu'on s'est fait bénir pratiquement dans tous les endroits, en Mongolie, Nlama qui nous a bénis, après ça, la famille où on est resté nous ont versé du lait sur les pédales de nos lieux. Habituellement, quand il y a un voyageur qui part, ils peuvent verser du lait sur les étriers des chevaux, mais nous, ils ont versé du lait sur nos pédales. Après ça, on est arrêté dans le temple à Lhasa, le Potala Palace. Il y a un moine qui nous voit, il dit « Ah, venez par ici ». Puis là, il nous retire un peu dans une pièce loin des touristes, puis il nous bénit. Après ça, même chose, en Inde, etc., un temple où les étrangers habituellement sont pas acceptés. Et là, il nous fait rentrer, il fait manger avec eux. Donc, ça a vraiment été les bénédictions d'un peu partout qui étaient très sympathiques.
Hein. Voyager en vélo, ça change quoi? Ça ouvre plus de portes? Est-ce que tu ressens là? Quel est le regard des gens sur des voyageurs qui sont en vélo?
C'est sûr que l'accueil est différent parce que notre temps, c'est comme si le temps était plus lent. Puis c'est comme si les gens savaient que on fait des efforts physiques, puis que notre temps était entre guillemets relatif et que c'était simple de s'arrêter ou d'être invité. Donc on dirait que les gens, par instinct, tout de suite, nous invitent soit à prendre le thé ou à dormir chez eux, etc., etc. Ce qui est différent quand tu arrives, puis tu vas directement au restaurant en 4x4, puis après ça, tu vas à l'hôtel. Donc, le temps ou les relations ne sont pas les mêmes, j'imagine.
C'est vrai que le rapport au temps dans la lenteur n'est pas du tout le même, quoi. Quand on voyage à pied ou en vélo, on a cette notion qui est très variante. Là, vous êtes parti pour un périple de 8000 km, hein, donc départ Mongolie, arrivé en Chine. À combien de temps? Combien de temps vous avez pris pour faire ce trajet?
Près de 6 mois, je dirais. Ouais. Près de 6 mois.
Le voyage, ça fait rêver beaucoup de monde. Et souvent, on se pose la question du « moi, je peux pas, ça coûte cher ». Comment tu as fait, toi, pour le modèle économique? Comment vous êtes organisé pour partir aussi longtemps?
Ben, ça coûte cher. En fait, je te dirais qu'en vélo, à manger des ramen, des petites nouilles sèches et se faire inviter à gauche, à droite pour prendre le thé dans des régions désertiques, ça coûte pas très cher. La réalité, c'est plus le billet d'avion et les vélos eux-mêmes ou les visas. Donc, nous, on a bossé un peu. On a fait même les ventes... nous, on appelle ça les marchés aux puces. Vous appelez ça quoi?
Les brocantes ou marchés aux puces.
Donc, on a fait des brocantes au début, parce qu'on n'était pas non plus dans le métier de documentariste. C'était pas notre travail. Ça a été aussi d'emprunter un peu d'argent à gauche, à droite. Trouver quelques petits commanditaires, mais on voulait pas non plus avoir un gros logo dans le dos. Donc, c'était plus de trouver de l'aide qui pouvait nous vendre des vélos au prix coûtant ou des choses comme ça, tu sais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Suite à ça, donc, tu rentres avec des rushs, hein, vous montez le documentaire Azimut qu'on pourra voir au Grand Bivouac, et vous rentrez au Québec et s'ensuit Québécoisie, c'est ça?
S'ensuit Québécoisie qui est pratiquement, d'une certaine façon, pour moi en tout cas, Azimut est la prémisse un peu à Québécoisie, parce que Québécoisie, c'est qu'on réalise qu'après avoir voyagé un peu partout à travers le monde pour différentes raisons, puis c'est entre autres dans le périple Azimut qu'on a réalisé qu'on avait des amis un peu partout à travers le monde, mais qu'on connaissait pas notre chez nous et les peuples amérindiens, les Premières Nations qu'on appelle chez nous. Donc on connaissait pas les différentes cultures qui étaient vraiment à côté de chez nous, à quelques kilomètres, à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et il y en a plusieurs. On a l'impression que les Amérindiens, c'est tout un grand paquet, mais c'est toute la même chose. Mais juste au Québec, il y a 11 nations, donc avec des langues différentes, avec des cultures différentes. Donc
là, c'est vraiment Québécoisie, ça parle plus des natifs, quoi, ceux qui étaient au Québec avant l'arrivée de l'occidental.
Oui, ça parle d'identité, de frontières aussi, d'une certaine façon. Donc c'est une question, je crois, qui est contemporaine, dans le sens où c'est paradoxe de vouloir métisser les cultures, mais en même temps de vouloir conserver les cultures. C'est une réalité mondiale aujourd'hui, j'imagine.
Tu peux me raconter comme ça rapidement l'histoire, pas de Québécoisie, mais de ces peuples natifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment... Oui, leur histoire?
Rapidement, on les a assimilés et on a dit aux nouveaux arrivants que Jacques Cartier avait découvert le Canada, et moi que j'ai grandi avec l'idée que le Canada était une terre vierge où personne n'habitait. On a l'image de... Mais dans le fond, il y avait des milliers de personnes partout, tu sais. Puis il y a eu des écoles qu'on a appelées les pensionnats, où vraiment le but qui était vraiment clair et écrit même sur papier, qui était d'assimiler les peuples des Premières Nations. Donc c'est ça l'histoire en gros. Et aujourd'hui, il y a vraiment, quand je parle de, je dis que le film traite de relations entre Québécois et Premières Nations, mais on pourrait dire que cette relation est une non-relation quand même, souvent.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mixité? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les peuples premiers au Québec?
Ben, je dirais qu'en ce moment, il y a quand même un...
On entend parler de réserve, ce genre de choses.
Ouais, il y a beaucoup de choses. On est comme dans une période où il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, des gens qui ont perdu leur culture. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a comme un regain, puis... Les jeunes veulent se réapproprier leur culture. Il y a beaucoup de Québécois de mon âge qui s'intéressent aussi aux cultures des Premières Nations. Donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des jeunes artistes des Premières Nations, par exemple, des jeunes rappeurs qui vont rapper, mais dans leur langue, donc en Innu, ils vont faire du rap, et non de la musique traditionnelle, mais ils vont rapper, mais dans leur langue, des choses comme ça. Donc, il se passe en ce moment, il y a vraiment... la question est quand même de plus en plus d'actualité, puis...
Mais ils ont réussi à s'intégrer au modèle qu'on leur a imposé. Donc, en arrivant, tu parles de Jacques Cartier, est venu avec toute la dynamique mondiale qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une adaptation? Est-ce qu'ils ont réussi à préserver certaines de leurs cultures?
C'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a plein de questions, en fait, que... Ça serait à eux de répondre. Tu sais, peut-être que je connais pas assez la culture pour dire qu'est-ce qu'ils ont préservé, mais parce qu'il y a tellement de choses qui ont été perdues. Mais la réalité, c'est que si tu vas dans une communauté autochtone, tu vas comprendre tout de suite par la façon que les gens sont, leur manière d'être, etc. On n'est pas du tout... en ville, au Québec, là, on se retrouve vraiment dans une autre culture d'une certaine façon, tu sais. Qui est beaucoup plus, je dirais, circulaire ou horizontale que hiérarchique ou verticale, ce qui représente peut-être plus notre façon de voir ou notre façon de penser. Je suis pas très clair, mais d'une certaine façon, c'est ça. C'est dans la façon de faire les choses, tu sais, en rentrant dans les... Chez quelqu'un dans une communauté, tu cognes pas à la porte, t'ouvres la porte, puis tu peux te rendre même chez quelqu'un que tu connais pas, puis tu peux te dire « Ah oui, est-ce que telle personne est là? » etc. Donc ça se fait dans les communautés, tu sais, puis... Fait que c'est difficile à dire qu'est-ce qui a été préservé, qu'est-ce qui a pas été préservé, puis souvent on a tout le temps l'idée folklorique de... Bon, que ce soit des plumes, des danses ou des choses comme ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment... c'est pas juste ça, la culture, tu sais. La culture, c'est aussi des valeurs, c'est aussi une manière d'être, etc., etc., tu sais. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses présentes chez les Premières Nations.
Après, tu as souvent cette projection de l'occidental, hein, de vouloir l'authenticité et de penser que les Amérindiens ont ce rapport à la terre qui est très pur. Nous, on a été complètement dominés par l'économie, le développement économique. Et souvent, on voit des posters avec les phrases des chefs indiens disant que c'est lorsque la dernière rivière aura été polluée, dernier arbre coupé, dernier poisson pêché, qu'on se rendra compte que l'argent ne se mange pas. On a l'impression qu'eux, ils sont justement dans ce respect de la nature et de prendre juste ce dont ils ont besoin, alors que nous, dans une démarche frénétique de surconsommation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce message de respect de la planète, de la Terre, est toujours présent?
C'est des grandes questions, hein. C'est ça, qui sont difficiles à répondre en deux secondes, mais je dirais oui et non, dans le sens où il y a certaines personnes qui... comme qui s'attardent aux réalités écologiques de la planète, environnementales de la planète, puis comme chez nous aussi, il y a certaines personnes qui s'y attardent et d'autres non. Donc,
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.